Effectivement, il faut prendre vaccin par vaccin, car une étude de tout vaccin en général n'est pas médicalement adaptée. Donc, je préfère parler du Gardasil aujourd'hui parce qu'il flotte actuellement une menace d'obligation vaccinale supplémentaire sur le Gardasil et que cette menace mérite d'être bien pesée. Je vous rappelle simplement la période pré-vaccinale qui est très importante, qui montre le succès du dépistage. Donc, avant les vaccins, le dépistage a permis de baisser au niveau mondial d'environ 50% dans tous les pays qui pratiquaient le dépistage. Et en France, ça a été de 80%, puisque nous avions 5 000 mortes de cancer du col avant le dépistage, et on est tombé à 1 000. Donc, c'est vraiment le succès absolu. Et le problème est de savoir si la vaccination supplémentaire peut diminuer les 250 femmes qui meurent par an en ayant été dépistées et pour lesquelles le dépistage était insuffisant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 1 000 femmes qui meurent actuellement en France, 750 n'ont pas pratiqué le dépistage selon les recommandations officielles. Donc l'accent aurait dû être mis, à mon avis, très longtemps sur le dépistage et non pas sur la vaccination. C'est les chiffres officiels. Le but, c'est de savoir les résultats cancérologiques. Je ne m'intéresse pas ici aux complications du Gardasil. Ce n'est pas le sujet. Je suis cancérologue et on a étudié et pour. Le problème est de savoir, c'est uniquement cette étude ne se parle que des pays qui pratiquaient le dépistage. Je ne parle pas de l'Afrique. Ce que je dis aujourd'hui, c'est valable pour la France et les pays industrialisés et non du dépistage. Dans cette étude, nous n'avons pu prendre que les pays qui ont un registre du cancer national, et il y en a finalement assez peu, et qui ont vacciné depuis assez longtemps, disons au moins 10 ans, et qui en plus ont atteint un taux de couverture vaccinale de plus de 80% dans le groupe d'âge ciblé par les vaccinations. Ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce qu'on a regardé les registres du cancer, alors qu'il y a plein de soi-disant d'essais randomisés qui permettent d'étudier l'effet du vaccin? Tout simplement parce qu'un essai randomisé en matière de vaccin, de anti-cancer, c'est stupide, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher pour une simple raison. C'est que c'est à 20 ans ou 30 ans qu'on va juger les résultats. En 20 ou 30 ans, on aura un nombre de pertes de vue qui vont complètement saboter l'analyse. D'autre part, on s'attaque, pour la France, par exemple, à une fréquence de maladie qui est de 6 pour 100 000 femmes par an. Donc à un taux qui est infime. Donc, on n'a aucune chance d'avoir une probabilité positive. C'est-à-dire que toutes les études randomisées qu'on nous balance, et il y en a plein, hein, vous avez... Le laboratoire a payé au moins 1 000 études donnant des résultats formidables pour le vaccin qui sont tous sur l'infection et les cytologies bénignes, mais pas sur le cancer, jamais. Et ils ont un risque bêta, quand on les étudie une à une, absolument colossal. Bêta, c'est le risque de ne pas voir une différence qui existe. Donc, ils n'ont aucun intérêt. À l'inverse, le registre du cancer, il voit toute la population humaine. Et en plus, le voir par des gens a priori honnêtes, parce que c'est les statisticiens n'ont pas de lien d'intérêt avec les laboratoires. Donc, ce sont des données fiables et c'est pour ça qu'on se base là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a interrogé Internet, donc toutes les données publiées dans les registres nationaux du cancer, les taux de couverture vaccinale. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la tendance des incidences brutes. Alors, brut, c'est jugé d'une classe d'âge. Lorsqu'on regarde l'incidence entre 20 et 24 ans, c'est l'incidence brute. Et l'incidence standardisée mondiale, c'est pour étudier l'incidence sur une population entière et comparer les pays. En étant en dehors des variations démographiques. Bon, alors, on a également, pour les classes d'âge, on a souvent des effectifs qui sont très faibles, et pour cela, au lieu de prendre l'incidence brute, on a parfois pris l'incidence brute lissée sur 3 ans ou 5 ans, qui est un moyen classique de statistique pour faire mieux apparaître les tendances. Et on a testé ceci par le coefficient de corrélation, parce que ce sont des données qui sont toutes les deux numériques, et on a inclus, on a cherché tous les pays, on en a finalement gardé 4, parce qu'il y en avait 4 qui avaient à la fois le dépistage ancien, le taux de vaccination élevé et un registre national du cancer. Vous voyez en bas les raisons d'exclusion des autres pays. Soit la population était trop petite, en Belgique par exemple, ils ont un très beau registre du cancer, ils ont bien fait, mais ils ont des populations qui sont wallonnes, et, bon, enfin je passe tout ça, les effectifs étaient insuffisants. Bon alors, voyons, ça c'est toutes les graphes que je vous donne, sauf exception, sont les graphes officiels que vous pouvez obtenir directement par les écrans. Hein. Donc ce sont des données indiscutables. Là, ça a été publié par l'OMS, enfin plus exactement par l'IARM, qui est l'Institut de recherche sur le cancer de Lyon, international, qui est l'agence de l'OMS chargée du cancer. Et vous voyez ici que la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a augmenté depuis la vaccination, 2006, ça s'arrête malheureusement en 2012, c'était publié en 2019. Et leurs données s'arrêtent en 2012. Donc la Grande-Bretagne qui vaccine a augmenté, la Norvège qui vaccine a augmenté, l'Australie qui vaccine a augmenté, la France qui vaccine très peu, n'a fait que baisser.
Excusez-moi, juste une petite question, c'est que là vous venez de dire il y a 30 secondes que il fallait, on ne pouvait pas faire d'essais randomisés parce qu'il fallait au moins 15 ou 20 ans.
Et
là,
vous non, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. Et ça, c'est
vous voulez dire que vous avez dit qu'on ne pouvait pas faire d'essais randomisés parce qu'il faudrait 15 ou 20 ans pour voir une influence de la vaccination sur la survenue d'un cancer. Or là, vous êtes en train de dire qu'en pratique, là, depuis la vaccination, ça a augmenté. Et là, ce n'est pas à 15 ans, mais c'est dans l'année. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas bien.
Tout non, suite, non, non, vous, bravo, bravo. Vous verrez ça après. C'est ce que j'appelle le phénomène du Titanic. Pour prouver qu'une manœuvre préventive est efficace, il faut attendre que la maladie arrive dans l'évolution naturelle et comparer au groupe vacciné. Donc on a besoin de 20 ans pour démontrer qu'elle est efficace. Par contre, pour démontrer que le Titanic, donc le Titanic c'est pareil, si on voulait montrer qu'il était insubmersible, il fallait le faire flotter sur toutes les eaux du monde et à côté des glaciers pendant 20 ou 30 ans. Par contre, pour démontrer que le Titanic coulait, il suffit de 6 heures. Et bien, pour le Gardasil, c'est la même chose. Le Gardasil, malheureusement, à mon avis, accélère la maladie et fait donc apparaître très rapidement, anormalement rapidement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette étude, la maladie. Il précipite la maladie.
Mais c'est intéressant parce que ce que vous dites là, c'est complètement le contraire de tout Absolument. Ce qui existe en pharmacovigilance. C'est-à-dire que la pharmacovigilance dit qu'il ne peut pas y avoir d'influence d'un quelconque produit sur la survenue d'un cancer avant au moins 15 ans.
Donc, ceci n'est pas la religion, ceci est purement la religion.
Non, c'est pas la religion, c'est toutes les données de pharmacovigilance qui existent comme ça.
Ça dépend, bah oui, parce qu'ils ont des mauvaises signaux.
Ce vaccin anti-cancer, la pharmacovigilance ne connaît pas les vaccins anti-cancer.
C'est pas un registre. C'est de la sous-déclaration.
Qui aboutit à une augmentation considérable.
La pharmacovigilance, elle a une sous-déclaration, donc c'est pas un registre du cancer.
Attendez. On va pas commencer un débat alors que la présentation n'est pas terminée. Donc, si vous avez des questions,
fait ce qu'elle veut, n'empêche que ces courbes, elles existent et ce sont des courbes officielles qui sont celles de l'OMS de 19. Bon, donc ça pose un problème. Le but de mon article n'est pas de dire le Gardasil est acheté à la poubelle. Bon, le but de mon étude est de dire c'est scandaleux qu'il n'y ait pas eu des études sérieuses sur le problème. Et en particulier de pharmacovigilance. Alors voyons un peu la Suède. La Suède a fait sa vaccination. Vous avez là la courbe de la Suède avant la vaccination. Vous voyez, ça descendait gentiment. Ils ont vacciné là, et hop, c'est monté. Et là, vous avez l'ensemble de la population. Vous avez les chiffres officiels. Bon. Donc ça continue. Alors là, vous me dites, c'est pas possible. Moi, je veux bien. Mais là, c'est la courbe officielle de l'ORCAN. L'ORCAN, qui est le registre scandinave de tous les pays nordiques sur le cancer, et ils font des analyses en breakpoint analysis, c'est-à-dire des recherches de rupture de tendance, pour savoir quand est-ce que la nouvelle tendance est apparue. Et là, vous avez la recherche de tendance faite par l'ORCAN, donc c'est pas moi qui sort quelque chose, et cette recherche de tendance, elle montre que c'est apparu en 2011, 2 ans après le début de la vaccination. Ah, effectivement, c'est tout à fait scandaleux, je suis d'accord avec vous, et je sais très bien que je vais contre le dogme absolu. Mais ça, c'est quand même, c'est pas moi, ça. C'est les registres officiels, c'est les statisticiens.
C'est la relation de cause à effet qui est complètement délirante.
Il n'a pas parlé de cause à effet.
On va en parler tout à l'heure. Laisse-le terminer, parce que sinon, on ne peut jamais s'en sortir.
Là, on s'intéresse aux cibles des vaccinations, c'est-à-dire uniquement dans le groupe qui a été vacciné au maximum. Alors, il faut bien comprendre que pourquoi j'ai choisi les femmes 24 ans, tout simplement parce que des cancers de col, il n'y en a pas avant 15 ans, il y en a exceptionnellement peu avant 20 ans, ça commence un tout petit peu à apparaître entre 20 et 25, et ça bande après. Bon. Or, si on regarde les gens qui ont été vaccinés, en Suède, ils ont pris à partir de 11 jusqu'à 18 ans. Ils ont commencé en 2010. Les derniers résultats datent de 2016. Cette courbe est une courbe lissée, donc elle prend en compte les résultats de 2016. Donc, entre 2010 et 2016, il y a eu 6 ans. Et donc, en 6 ans, c'est les filles qui avaient entre 11 et 18 ans, elles sont arrivées à 24 ans. Donc, les 20-24 ans ont été vaccinées à 80%. Et dans ce groupe, vous avez cette augmentation absolument faramineuse. Je suis désolé, mais c'est quand même très impressionnant. Et à l'opposé, les femmes suédoises qui n'ont pas été vaccinées ont vu leur incidence de cancer du col continuer à diminuer exactement comme à la période du dépistage et sans vaccination. Bon, je dis, c'est grave, ça pose un problème. Peut-être que la Suède était mal partie. On va s'intéresser à la Norvège. Là, là vous avez la courbe sur la population norvégienne de 0 à 85 ans. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une augmentation totale en 2012, deux ans après la vaccination. La vaccination est inférieure. Et vous avez les chiffres. Ça continue à baisser jusqu'en 2012. Et là, crac, ça s'est planté. C'est sur l'ensemble de la population. Intéressons-nous au groupe des hyper-vaccinés, ceux qui ont été vaccinés à 87% d'après les registres officiels norvégiens de vaccination. Eh bien, là, vous avez la courbe où ça a baissé jusqu'en 2011, deux ans, la vaccination est là, ça continue à baisser au début, et à partir de deux ans après la vaccination, ça a augmenté. Et à partir du moment où ça a augmenté, c'est pas d'un petit peu, ça a été augmenté par trois. Ceci est la courbe officielle de NORCAM. Je ne peux rien, c'est pas moi. Et puis ils ont fait aussi une analyse de rupture de tendance. Et la rupture de tendance montre que cette augmentation est apparue deux ans après la vaccination, une fois de plus. Par contre, effectivement, les femmes de plus de 50 ans qui ont eu le bonheur de bénéficier du garde-asile ont vu leur taux de cancer de l'utérus qui a continué à diminuer.
Et alors continue.
Alors là, vous voyez, là, on compare les trois pays scandinaves. Parce que je veux dire, les Scandinaves, ils ont une évolution différente, ça n'a rien à voir avec la vaccination. Très bien. Je compare trois pays scandinaves, la Suède, la Norvège, le Danemark. En Suède et en Norvège, là, c'est uniquement les vaccinés des 24 ans. Hein. C'est des vaccinés à plus de 80%. Voilà, Suède et la Norvège. Au Danemark, il y a de mauvais journalistes qui ont dit plus haut de dire que le garde-asile pouvait donner des complications. Et le taux de vaccination du Danemark est tombé à moins de 10%. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Avant la vaccination, le Danemark était le plus mauvais des élèves, avec 4 pour 100 000 de risque. Et après la vaccination, il est le meilleur, tandis que la Suède s'est augmentée, la Norvège s'est augmentée. Et donc, on a une inversion dans la liste des pays en termes d'incidence de cancer de l'utérus. Parmi les groupes d'âge vaccinés, il se trouve que le Danemark est passé à la meilleure place. Alors l'Australie est partout donnée comme le modèle du pays qui va éradiquer le cancer grâce à la vaccination. Je vous rappelle, parce qu'on m'a senti, on m'a dit que les gens n'avaient pas été vaccinés après. Ils ont vacciné de 14 à 26 ans. Donc l'Australie permet d'étudier non pas les 20-24 ans, mais on peut étudier 26 ans, c'était en 2007, plus 3 jusqu'à 33 ans. Donc les femmes jusqu'à 33 ans en Australie ont été vaccinées. Alors là, vous avez la courbe d'incidence. Là, c'est pas la leur, parce qu'ils ne publient pas leur courbe, ils publient leurs chiffres. Donc, je me suis permis de tracer la courbe à partir de leurs chiffres. Et vous voyez qu'en gros, vous avez là les chiffres officiels. Hein. Et ils ne donnent pas de résultats après 2015, sauf des résultats sur la population globale. Donc, pour les groupes d'âge, je ne peux pas faire mieux. Je suis désolé. En tout cas, ça a augmenté. Donc, ils ne peuvent pas dire que ça a diminué. Et puis surtout, dans le groupe des femmes plus âgées, où c'est là où on voit les tendances, puisque c'est là que les cancers apparaissent, ça a augmenté 33%, et cette augmentation est statistiquement significative, 1%. Donc on peut difficilement dire qu'il n'y a pas de problème. Et là encore, une fois de plus, ces pauvres vieilles australiennes qui n'ont pas bénéficié de la vaccination, ben vous avez là leur chiffre, et vous voyez que ça a baissé en moyenne de 15%. L'incidence chez les femmes non vaccinées en Australie a baissé de 15% durant la même période. La Grande-Bretagne. Alors, en Grande-Bretagne, ils ont vacciné, donc avec des rattrapages jusqu'à 18 ans. Donc, ils ont commencé à vacciner en 2007 et en 2008. Leur taux de vaccination s'étale, dans le groupe cible, s'étale entre 80 et 85%. Ça dépend des cantons. C'est très bien détaillé dans leurs affaires. Et vous voyez qu'on a vacciné là, ça continue à baisser un peu et hop, c'est remonté. Et donc, l'augmentation atteint 38% depuis que ça a commencé à augmenter. Et là, à nouveau, les femmes non vaccinées, là c'est la courbe officielle de Truc, hein, Cancer Research United Kingdom, vous voyez que ça a baissé partout, c'est resté stable ou ça a baissé chez les femmes de plus de 50 ans. Et puis là, il y a une tendance d'incidence, parce que tous les articles qui racontent que le garde-asile va faire disparaître le cancer sont des articles de simulation. Quand vous vous intéressez aux gens qui les écrivent, soit ils ont des liens extrêmement forts avec le laboratoire, comme Dulmer, qui est carrément un conseiller officiel du laboratoire, soit ils sont dans les offices de vaccination, donc ils vivent des vaccins. Mais je ne les accuse pas d'être malhonnêtes, je les accuse simplement d'avoir une vue un peu tronquée par leur travail, ce qui est tout à fait naturel. Bon, et bien là, ceux-là, c'est des statisticiens qui ne sont pas des médecins, qui vont
eh bien, eux, ils s'en fichent un peu de la vaccination, et ils prévoient ce qui va se passer en Angleterre. Eh bien, voilà leur prédiction pour l'Angleterre. Ils pensent que dans les 20 ans à venir, ça va augmenter de 35%. Alors, la France, ce sont les courbes officielles. Nous n'avons pas de registre du cancer, je suis désolé, c'est une honte, mais c'est comme ça. Mais ce sont les courbes officielles de l'Institut de veille sanitaire. Et vous voyez qu'on est arrivé à 6 pour 100 000 en taux d'incidence du cancer du col invasif. Je ne parle que des cancers invasifs. Et ça est la mortalité de 1,7. Alors je vous donne ça parce qu'on va avoir après la suite. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Ce qui est très étonnant, c'est la similitude dans les 4 pays.
2 minutes.
D'accord. Bon, c'est grave. Donc après, pour les vaccinations de rattrapage, c'est statistiquement significatif que c'est délétère. Bon, et là, vous avez, par contre, les vieilles non vaccinées, vous voyez, partout ça baisse. Donc, cette augmentation est paradoxale. Pour donner globalement, voilà, d'un côté, l'incidence, là, c'est sur l'ensemble des populations, l'incidence mondiale, telle qu'on peut les trouver, du cancer, donc en incidence standardisée monde, et la couverture vaccinale. La France, avec son faible taux, est à 6. Tous les autres pays vaccinateurs sont nettement de l'autre côté. Les USA sont intermédiaires, ils ont un taux de vaccination de couverture dans la plage d'âge de recherche d'environ 50%, et ils sont aussi intermédiaires en incidence, ils sont 6,8. Donc on ne dise pas que c'est donc... Alors on accuse des pratiques sexuelles, bon, je pense qu'on va passer là-dessus. Bon, simplement, c'est trop tôt pour démontrer l'échec. Non, c'est trop tôt pour démontrer l'efficacité. Et pour démontrer un échec, on n'a pas besoin d'attendre. Je veux dire, quand on a un accident d'avion, même si on n'est pas arrivé au bout, on s'est cassé la gueule. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et je trouve extrêmement préoccupant que personne ne s'intéresse à ce problème. Et ce n'est pas à moi de trouver les causes. Je suis qu'un chirurgien. Je ne fais que compter les dégâts. Bon, effectivement, la précocité de l'augmentation n'exonère pas le vaccin. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'un vaccin modifie totalement l'évolution naturelle. C'est-à-dire, c'est ça qu'on donne les vaccins, c'est pour faire disparaître les maladies. Et que de temps en temps, ce n'est pas comme on veut. Les essais de vaccins anti-sida ont abouti à des augmentations d'incidence du sida. Ils ont été abandonnés parce que c'était des essais médicaux correctement faits. Step et pantril, pour regarder, c'est des
effets. Non, mais oui. Je ne mets pas en cause ça, mais ce n'est pas la même nature d'évoquer l'incidence d'un vaccin sur un problème d'infection et l'incidence d'un vaccin sur un problème de cancer.
Oui, mais
finissez. Non, mais j'ai tort d'intervenir maintenant.
Un vaccin modifie l'évolution de la maladie, c'est tout ce que je veux expliquer.
Ah bah oui.
Oui, mais non, mais parce qu'on a répondu, et la ministre même de la Santé a répondu à une question écrite d'un député, que ce n'est pas possible sur le vaccin parce que c'est trop tôt. Elle se réfère à l'évolution naturelle. Et elle paraît ignorer que malheureusement ça peut changer.
Finissez, s'il vous plaît.
Donc, en pratique, il faut demander l'application des lois de la loi Bertrand, une vraie transparence sur les vaccins.
Ah, bien sûr.
Et oui, mais ça, on ne demande pas assez fort, puisqu'on n'est pas écouté. Bon, je passe, je crois que c'est
tout. Oui, d'abord, on vous remercie. Restez à proximité parce qu'il y aura peut-être à donner des réponses.